entre les Espagnols, sa sœur et la salle. J'ai refusé totalement ce qui se
passe. Moi, c'est les diplomaties au Katanga. Je pense que l'enfant de nos deux bâtis de mes précédents trouvait une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ce dernier numéro des Paroles aux auditeurs de cette semaine consacrée à l'enseignement supérieur et universitaire. C'est le mercredi 15 juin dernier que les lampions de la deuxième exposition de l'enseignement supérieur et universitaire se sont éteints dans la salle de l'Académie des Beaux-Arts ici à Kinshasa. Cet événement qui s'est tenu ensemble avec la table ronde des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire était un cadre d'échange et de recherche des solutions pour le développement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et aussi valoriser les domaines de la recherche et le rendre compétitif aux standards internationaux. De la médecine à l'agronomie, en passant par les sciences sociales et les arts, les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de l'ensemble du pays ont exposé leurs œuvres d'esprit pendant qu'autour du ministre de Skel, le responsable de ces institutions réfléchissait sur les voies et moyens d'améliorer ces secteurs. Une seule question pour l'échange avec vous dans cette émission. Que faut-il pour développer le secteur de la recherche au sein de l'enseignement supérieur et universitaire? Nous avons au téléphone dans cette émission le professeur Léonard Machakomamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, comme invité. Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Dieudonné Nyangasa sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngaka et Pierrot Ilamiji pour la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapitaine.
Bienvenue à tous. Comme je le disais, la deuxième édition de l'Expo SU 2011 a vécu dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts, ici à Kinshasa, une activité qui s'est tenue simultanément, je le disais, avec la conférence des chefs d'établissement du même secteur. Les objectifs ont été définis, nous allons en parler en long et en large avec vous, auditeurs de Radio Capi, surtout en ce qui concerne le développement du secteur de la recherche au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais ce n'est pas la première fois que cela se tient. La première édition s'est tenue l'année passée. Nous avons en ligne notre invité, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeur Léonard Machakomamba. Vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons d'abord par la première question, c'est de savoir comparativement à la conférence de l'année passée, en ce qui concerne d'abord la conférence des chefs d'établissement, parce qu'on va aussi parler de l'exposition elle-même, mais en ce qui concerne la conférence des chefs d'établissement, quelles ont été les mesures particulières qui sont prises par rapport à la rencontre de l'année passée?
Merci beaucoup, je voudrais saluer tous les auditeurs de Radio Capi et vous remercier pour l'opportunité que vous donnez encore au secteur de l'enseignement supérieur pour faire le point. Je pense que la grande différence entre la première exposition et la deuxième, en termes de rencontres d'abord de chefs d'établissement, il y a eu un plus grand nombre de participants par rapport à l'année passée avec toutes les provinces représentées, tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que les services spécialisés du ministère. Deuxièmement, il y a eu un rôle important parce que nous tenons à ce que les étudiants, quand ils terminent, ils puissent être en mesure de trouver facilement de l'emploi. Il y a eu donc toute une journée consacrée aux partenaires nationaux à travers la FEC, la NEP, la COPEMECO et la CENAPEC, mais également les partenariats avec les bailleurs de fonds bilatéraux, multilatéraux. Et troisièmement, nous avons fait un diagnostic le plus complet possible et l'homme, celui qui bâtit et celui qui peut aussi changer pour le bien. Et donc, à l'issue, nous avons pris la ferme résolution de mettre en place les systèmes de l'assurance qualité, la bonne gouvernance et commencer officiellement le système LMD, licence, maîtrise et doctorat, pour créer les conditions de l'arrimage aux standards internationaux. Et donc, nous avons mis en place les dispositifs qui nous permettra petit à petit de commencer à réapparaître dans le classement africain et le classement mondial. Mais déjà, dès la fin du mois d'août, nous allons sortir le classement par province et le classement au niveau national en donnant la cotation de chaque établissement. Et enfin, quatrième innovation, c'est par rapport à l'année passée, c'est la nécessité de mettre en premier lieu la relève académique par les recherches. Donc, dès l'année académique 2011-2012, la recherche scientifique va avoir un point important parce que c'est ça qui nous permettra de préparer des professeurs, des relèves, les chefs de travail, les assistants, mais également c'est cette production qui nous permettra d'être cotés au niveau international et de réapparaître progressivement dans le classement dans lequel notre pays a disparu voici bientôt 30 ans.
Voilà. Et pour revenir à la troisième organisation, vous avez parlé du système LMD. Est-ce que c'est toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaires qui sont concernées ou bien on y va étape par étape, les institutions, tout dépend de ce qu'ont des professeurs. Comment cela va-t-il être organisé, ce système LMD?
Le système LMD, la chance que nous avons dans notre pays, c'est en fait, après les examens d'État, la licence, c'est le niveau diplôme d'État plus 3 ans, c'est l'actuel graduat, donc nous avons déjà moins de perspectives. La maîtrise, c'est diplôme d'État plus 5 ans, ça nous amène donc à la licence actuelle. Et par contre, nous avions un système de troisième cycle très très long, parce que nous avions d'abord le BA et le BS avant d'arriver à la thèse. Mm-hmm. En entrant dans le LMD, nous allons raccourcir la durée du troisième cycle, mais elle doit être caractérisée par des publications et des recherches de très haut niveau. Donc, ça, nous avons déjà la grande partie du système, du moins, du cadre, mais c'est le contenu sur lequel on va travailler. Et comme il faut s'arriver aux standards internationaux, ceux qui n'ont pas d'infrastructure, ceux qui n'ont pas de matériel didactique, ceux qui n'ont pas le corps enseignant qualifié, il va de soi qu'eux doivent continuer à travailler pour arriver au minimum des standards. Mais Dieu merci, il y a des institutions dans notre pays et dans toutes les provinces qui ont déjà ce minimum de standards. C'est pour ça que la classification au niveau national va être importante. Et donc, nous allons commencer progressivement. Et pour cela, déjà dès le mois, vers le 15 juillet, nous allons avoir un plan stratégique du secteur de l'enseignement supérieur, un plan stratégique sur 5 ans. Et chaque année, nous devons évaluer si nous sommes en train de nous améliorer pour arriver dans les standards internationaux. Je voudrais déjà vous rassurer, nous avons au moins 10 établissements sur l'ensemble du territoire national qui remplissent les critères, qui utilisent déjà le système LMD, qui ont la maîtrise, mais qui doit s'améliorer des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et le nombre d'universités qui vont commencer à fonctionner dans pratiquement toutes les provinces en utilisant donc les cours à distance, grâce aux nouvelles technologies. Ce nombre-là nous permet aujourd'hui de penser qu'il y aura au moins une trentaine d'établissements qui pourraient être en mesure, dès l'année académique 2011-2012, commencer déjà le processus, que nous allons suivre étape par étape. Et il est important aussi de signaler, vu ce que nous avons vu pendant l'exposition, que nous venons d'autoriser au moins 15 instituts supérieurs qui ont au minimum de 5 professeurs qui ont tous des thèses, de commencer aussi à organiser le troisième cycle. Donc, à côté des universités qui étaient déjà autorisées, cette année académique, nous allons ajouter le nombre d'établissements qui peuvent aller jusqu'à des thèses de doctorat. Donc, nous pensons avec la détermination et l'appui des parents, de la société, bien sûr le gouvernement et tous les partenaires, notre pays aujourd'hui est en ordre de marche pour revenir dans les standards internationaux.
On vous garde en ligne, monsieur le ministre, le temps d'écouter aussi les auditeurs, comme d'habitude, qui ont aussi un point de vue ou certaines questions à poser par rapport à l'angle que nous avons pu considérer en ce qui concerne le développement de la recherche et aussi revenir sur l'exposition, comme Guillaume qui est à Maggi et Étienne qui est à Mbujimayi.
Parole aux auditeurs.
Étienne, vous êtes à Maggi en province orientale, bonjour. Étienne, vous êtes en ligne, bonjour.
Je suis en province du Café Oriental, ici en Mbujimayi.
Étienne, vous êtes en Mbujimayi. Il y a Guillaume qui est à Maggi. Étienne, vous gardez la ligne, il est temps qu'on écoute Guillaume de Maggi. On va revenir à vous. Guillaume, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, Piro.
Vous êtes à Maggi en province orientale. Nous parlons de l'exposition, la deuxième édition qui a eu lieu, qui s'est clôturée ici à Kinshasa, avec l'accent particulier sur le domaine de la recherche. Une question à vous, auditeurs, c'est ce que vous pensez qui puisse être fait pour développer le secteur de la recherche au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. On vous écoute, Étienne. Et au Guillaume.
Oui, bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de la radio d'Api, particulièrement à son excellence, monsieur le ministre. Mm-hmm. Oui, je sais d'abord le bienvenue à son excellence, monsieur le ministre, sur les plateaux. La rencontre a eu lieu, Pierrot, j'encourage les professeurs et les initiateurs de cette rencontre. Toutes ces belles explications que le ministre a données, oui, je les ai suivies, mais je ne dis pas pour répéter ce que le ministre a dit. Il a nécessité de mettre l'ordre dans l'enseignement supérieur, Pierrot. C'est comment on dit ça que toutes les réformes congolaises qui ont lié ensemble les effets de 1960 et les derniers de 1986 ont échoué avec l'enseignement. Le problème au Congo est réel et très profond. Il faut chercher une solution adéquate. L'enseignement, Pierrot, est un domaine technique et qui mérite de recherche. Vous savez dans l'enseignement, Pierrot. Dans l'enseignement, les gens ne cherchent pas la majorité démocratique comme les politiciens cherchent en politique. Donc, il faut établir, comme le ministre est là, Pierrot, je dis et je me répète à votre position, le ministre aussi me suit aussi très bien, il faut établir une bonne gouvernance au sein du ministère de l'enseignement supérieur, choisir des facultés qu'il faut créer, en étant créé par exemple n'importe quelle faculté parce que ça existe dans telle ville ou dans tel pays ou dans telle province. Encore je continue, Pierrot, il faut une étude de niveau pour s'occuper suffisamment de l'affaire de l'éducation de qualité. Il faut faire une séance avec conscience pour améliorer l'éducation et pour ne pas tomber devant une ruine de l'âme. Il faut que l'autorité publique doit tenir compte des compétences des professeurs. C'est-à-dire, il faut partir du principe. Il faut visiter des facultés.
Voilà.
Pour leur propre telle ou l'informatique et la bibliothèque. Je vous remercie.
Merci Guillaume. Voilà. Merci. On vous a suivi. En bref, vous avez été revenu sur la bonne gouvernance dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis, vous avez aussi parlé des facultés qu'il faudrait créer, qui sont nécessaires, au lieu de créer beaucoup de facultés à travers le pays uniquement pour comparaison. Merci. De son point de vue, vous êtes à Maggi, en province orientale. Étienne est en Mbujimayi, au Kassai oriental. Étienne, bonjour. Étienne, vous êtes en ligne, bonjour. Ah, on a perdu Étienne, cela nous permet de revenir à monsieur le ministre. Vous avez parlé du système LMD en parlant de raccourci pour la durée du troisième cycle, mais cela aussi pose le problème des prêts à payer. On voit actuellement, tel que ça se présente, le troisième cycle, on sait combien d'argent il faudrait débourser. On va jusqu'à 1000 euros pour les uns et les autres 1200, les autres 700 euros. Est-ce que les raccourcis le nombre d'années va aussi marcher de pair avec le frais qu'il faudrait payer pour permettre aux gens de pouvoir accéder à la formation?
Merci beaucoup. Je voudrais vraiment saluer Guillaume. C'est comme s'il était avec nous parce que tout ce qu'il a demandé qu'on puisse privilégier, je le salue, c'est la recherche, c'est la bonne gouvernance et c'est l'assurance qualité. Je voudrais lui dire déjà que nous avions inscrit pendant cette année académique qui est en train de se terminer à tous nos établissements, tant du secteur public et privé, de mettre en place les cellules d'assurance qualité, parce qu'il ne faut pas qu'on édicte ça au niveau du ministère, qu'on ait un plan au niveau du ministère et que dans les établissements, rien ne puisse se faire. Ça nous a permis, pendant cette conférence, d'analyser la réforme de 71 qui a créé l'UNASA, celle de 81 qui a dissous l'UNASA, celle de 91, il y a eu la dissémination avec la création des universités, des instituts dans tous les villages. celle de 2004 avec le PADEM qui a introduit plusieurs filières et qui n'ont jamais été évaluées, et enfin la réforme de 2006. Nous avons donc commencé par faire le diagnostic, et il a raison de dire on a fait beaucoup de réformes mais qui n'ont pas abouti, donc nous avons commencé par cela. De même, si nous avons dit que la recherche, si on ne la met pas en premier lieu, comme les professeurs ont une moyenne de 65 ans, dans 5 ans ils entrent en retraite, qu'est-ce que les professeurs vont laisser derrière eux? Il faut donc pousser la recherche. Il faut qu'il y ait manifestement la bonne gouvernance. Guillaume sait que nous avons envoyé des équipes dans toutes les provinces, notamment même à Mahagui, non seulement pour la quête de viabilité, mais également pour le contrôle de scolarité. Et la bonne gouvernance est une condition sine qua non pour nous préparer à aller dans les standards, à relever le niveau pour atteindre les standards internationaux. Et de nouveau, l'assurance qualité. Si nous ne venons pas sur la qualité, nous n'allons pas relever le niveau tant de l'enseignement supérieur universitaire que de l'EPSP, parce que vous devez savoir que ce sont les ISP qui donnent les enseignants pour l'EPSP, et les ISPT, les instituts supérieurs pédagogiques et techniques, des ingénieurs pédagogues qui doivent aider les filières techniques et professionnelles de l'EPSP. Et donc, je peux le rassurer que c'est comme s'il lisait dans la pensée de tous ceux qui ont participé, qui se sont engagés. Les mécanismes sont en place. Vous savez que la décision salutaire du chef de l'État, 50 ans après les indépendances, de commencer à réhabiliter, à moderniser les universités. Et maintenant, il y a 24 ISP. Donc, dans chaque province, il y a au moins 2 ISP qui vont être réhabilités, rééquipés, les ISPT. Je peux donc vous dire que le chef de l'État lui-même vient de nous donner la direction dans cette bonne gouvernance, dans l'assurance qualité, et c'est à nous de faire de la recherche, et la recherche, j'espère qu'on va avoir l'occasion d'en parler par rapport à tout ce qui était exposé. Et bien sûr, nous devons revenir sur ce problème des frais. Vous avez raison, Pierrot, de soulever ce problème. C'est des frais qui, par moment, cassent la bonne volonté. Et donc là aussi, la bonne gouvernance va nous amener à ce qu'on puisse réglementer et qu'on puisse assurer que les frais, quel que soit le montant qui aurait été payé, qu'ils ont servi réellement à cette utilisation. De même, le gouvernement doit aussi s'assumer, ainsi que finalement les collectivités locales, parce que finalement la formation des cadres de haut niveau profite bien sûr à la personne, mais surtout à la société congolaise.
Voilà.
Donc, on est conscient, et cela est ressorti des échanges que nous avons eus. Et donc,
voilà. Je
remercie et félicite Guillaume pour cette pertinence. C'est dans ce sens que nous devons travailler.
Voilà. Il y a Eric qui est à Bukavu, Étienne est en Boujimaï. On va revenir à vous pour terminer cette partie qui touche la globalité de l'enseignement et aller maintenant à l'exposition et au domaine de la recherche d'une manière un peu plus spécifique. Il est temps d'écouter Eric de Bukavu. Eric, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Bonjour, monsieur
de Bukavu. Je suis intervenu depuis le site de l'université de l'ISDR Bukavu. D'emblée, je remercie l'initiative du gouvernement par le biais du ministère de l'Insu d'avoir vu l'importance de réunir les responsables du secteur d'enseignement supérieur. Enfin, avant de donner mes attentes sur la dernière rencontre de ces personnalités, je vais auparavant écrire la situation des étudiants congolais en général et celle du site Kivu en particulier. Vous le savez, la prime des enseignants payée par nos parents ne vaut pas la peine. Cette prime des enseignants qui est payée par nos parents comme conséquence, il n'y a pas de dette morale vis-à-vis du pays par les étudiants. Moi, je peux donner mon exemple. Depuis que j'ai commencé mon parcours universitaire, ce sont mes parents qui payent le gros. Et donc, après mes études, je me dis que je n'aurai pas une dette morale vis-à-vis de mon gouvernement. Alors, s'agissant de mes attentes, j'ai dit premièrement que moderniser les filles en RDC, c'est bien, mais que le gros du coup ne soit pas supporté par les parents. Deuxièmement, la livraison rapide des diplômes aux finalistes. Nous avons besoin de trouver nos diplômes dans un délai qui est cours qui est court possible, parce que d'ici là, nous allons terminer. Alors, il faut que nous délivrons nos diplômes rapidement. Je termine par une question que je vais adresser au monsieur le ministre, parce qu'il a évoqué la question d'emploi dans le pays. Je l'ai dit, quelles sont les stratégies arrêtées pour améliorer la situation d'emploi pour les cadres nouvellement venus de l'université? Je vous remercie.
Merci, Eric de Bukavu. Vous avez évoqué la situation. Il ne faudrait pas que la réforme puisse se reposer sur les parents, que les coûts ne soient pas vraiment supportés par les parents. Mais vous posez la question, ministre, en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Quelles sont les stratégies qui ont été décidées, mais aussi le problème de vos diplômes qui doivent être délivrés à temps? Merci. Et nous rentrons maintenant. Étienne, vous avez maintenant la parole à partir de Mbujimayi ou Kassai Oriental. Bonjour, Étienne.
Oui, bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Kati et bonjour aussi à son excellence, monsieur le ministre, qui est avec vous.
Voilà, on vous dit que c'est
ouais. Je voulais m'adresser à monsieur le ministre en trois rubriques. Nous sommes d'abord très contents des initiatives que met en pratique toutefois le gouvernement de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la réforme du secteur enseignement supérieur et universitaire dans notre pays. Mais nos grandes inquiétudes, c'est quoi? Le ministre a toujours visé la qualité de l'enseignement qui doit être donné au peuple congolais. Mais nous nous inquiétons du fait que ce qui est déjà là, il y a des bonnes lois, il y a des bonnes lois qui sont déjà mises en place dans notre pays, mais c'est la façon d'appliquer ces lois qui nous inquiète. Par exemple, je suis ici à l'université officielle de Mbujimayi. Je voudrais rappeler à monsieur le ministre, je ne sais pas, en causant avec les dirigeants des instituts supérieurs et universitaires, s'il leur a demandé des situations réelles qui sont en train de vivre dans ces universités. Par exemple, nous aussi, il fallait qu'à la prochaine occasion, qu'on associe aussi les étudiants dans ces instituts, parce que ce sont eux qui vivent les vraies réalités qui se passent dans les campus. Je donne par exemple le compte de Chulabus. Ici, dans nos universités actuellement, surtout dans les universités officielles, les problèmes de Chulabus est devenu monnaie courante. Presque tout enseignant qui entre, il a avec lui un Chulabus qui lui accompagne. Et l'achat de ces Chulabus est toujours obligatoire. Et si vous ne payez pas les Chulabus, vous payez les droits d'auteur, mais qui sont toujours équivalents aux frais de ces Chulabus. Je voulais demander à monsieur le ministre si l'achat de Chulabus dans les campus universitaires est-elle obligatoire ou pas. Et deuxième préoccupation, c'est nous visons la qualité de l'enseignement. Et les comportements même des gens qui nous donnent cours laissent à désirer. Je donne par exemple certaines autorités qui dirigent certaines facultés, par exemple la faculté de médecine ici dans notre université. Ce sont eux-là qui sont à même d'exiger les montants exagérés aux étudiants qui étudient dans ces facultés-là. Voyez un enseignant qui donne cours à la fin de son cours. Il pose un examen, un auditoire par exemple de 300 étudiants, des étudiants qui réussissent. Et à la fin, il vous exige des montants de 100 dollars, de 200 dollars, qui dépassent même les frais académiques que nous payons dans ces universités-là. Donc, je voulais savoir, en visant la qualité, quelles sont les méthodes et les mécanismes que le ministre a mis en place pour faire la suivi de tout ce qui a été maintenu, de toutes les décisions qui ont été prises au niveau de ces états généraux-là.
Merci,
les décisions sont bonnes. Mais la mise
on vous a suivi, Étienne, en trois mots, vous avez dit qu'il y a des textes et des résolutions, mais quels sont les mécanismes de suivi pour l'application de cela? Vous avez aussi souhaité que les délégués des étudiants soient associés à la table ronde de responsables des établissements et aussi les problèmes des syllabus, hein, qui c'est monnaie. Nous avons Maître Adrien qui nous appelle de Kananga, au Kassai Occidental. Maître, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Théro et Ramesh.
On vous écoute, Maître Adrien.
Oui, oui. Monsieur Théro, merci beaucoup pour la parole. Mais je voudrais vous dire que les organisateurs sont allés vite en besogne, hein, parce qu'ils devaient d'abord évaluer la question de savoir où se trouvent donc les défauts. Est-ce que c'est au niveau des étudiants ou bien au niveau des universités? Parce que lorsqu'ils disent qu'ils veulent moderniser donc l'enseignement supérieur et universitaire, bon, moi je pense qu'ils sont allés vite en besogne, parce que lorsque nous analysons ce qui se passe dans notre pays, nous voyons que le problème est ailleurs. Moi qui vous parle, j'ai un ami avec qui nous avons fini à Lubumbashi. Présentement, il est en Afrique du Sud, mais il est en train train de carburer. Donc c'est pour vous dire que les problèmes ne se trouvent pas au niveau de ce sujet, mais je pense que monsieur le ministre, qui est au sujet, je pense bien, il pouvait d'abord traiter donc les conditions de vie des enseignants. Comment est-ce que les enseignants sont pris en charge? Comment est-ce que les enseignants donnent cours? Donc anéantir d'abord tous les fléaux qui paralysent vraiment la bonne marche de nos donc de notre enseignement, et par après songer maintenant à leur idée, n'a pas que d'emblée aller directement comme ça. Je pense que ce n'est pas du tout correct, Pierrot.
Voilà. Adrien, peut-être qu'on risque de ne pas bien entendre ce que vous avez dit. Vous souhaitez qu'on s'occupe d'abord des conditions de vie des enseignants avant de penser à améliorer autre chose. Peut-être que ça peut permettre aux auditeurs de retenir. Commencez d'abord par voir comment dans quelles conditions les enseignants sont-ils payés, qu'on ils donnent cours, et puis passer au reste. Je crois bien, ça peut être un peu plus clair. Merci ainsi, Adrien. Nous avons aussi un auditeur en dehors de la RDC, c'est Franck qui est en Autriche. Bonjour, Franck.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à son excellence, monsieur le ministre. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capis.
Nous parlons aujourd'hui de cette deuxième conférence des chefs d'établissement couplée avec la deuxième exposition. On a vu des œuvres d'esprit de nos différentes universités, mais on voudrait savoir ce qu'il faut faire pour renforcer et développer ces domaines de la recherche au sein de l'enseignement supérieur et universitaire. Votre point de vue par rapport à cela, Franck?
Oui, merci beaucoup, M. Pierrot. Je salue personnellement d'abord les efforts de notre ministre de ce domaine, et je l'ai toujours suivi. Il se bat pour chercher à réhabiliter un peu le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est vraiment louable de voir comment il se bat pour aligner nos institutions supérieures et universitaires au niveau du standard international.
Mm-hmm.
Parce que un pays ou un État qui n'a pas une politique universitaire assez solide et voué déjà à l'échec au niveau de la compétitivité, au niveau du rendement technique surtout. Mais ma crainte, le problème que je voudrais soulever, c'est lequel, c'est au niveau du budget et des finances. Je crois que le fait d'avoir le souci d'aligner nos institutions à ces standards est une chose. Avoir les moyens financiers de telles ambitions en est une autre. Je voudrais d'abord poser une question directe à M. le ministre qui me suit, de nous dire le budget de cette année pour ce secteur, le budget alloué à ce secteur a été de combien de pourcents? Alors, par rapport au niveau où nous trouvons, est-ce qu'avec ce budget-là, il est sûr de répondre à ses besoins ou bien c'est peut-être aux années à venir? Alors, aussi, comme ils ont déjà parlé de réhabiliter, mais je crois qu'il faut plus créer des facultés qui pousseraient les étudiants à se créer des emplois, quoi. Parce que moi, je trouve que chez nous, l'université forme des têtes, mais ne forme pas des gens qui sont capables pour former, pour créer des emplois.
Mm-hmm.
Alors, dans la plupart de nos villes, ce sont les mêmes facultés, IFTEM, IEC, il n'y a que les mêmes facultés qui reviennent partout. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de créer d'autres facultés plus techniques au niveau de l'informatique pour la force technique? Donc, je crois que si on peut se pencher de ce côté-là, ça irait, mais aussi avoir les moyens de sa politique, parce que pour gérer des facultés comme des polytechniques, comme l'informatique, mais il faut avoir beaucoup de moyens. Moi, je ne crois pas qu'avec moins d'un milliard pour son secteur, qu'il pourrait répondre à tous ces besoins-là. Voilà un peu ma crainte et ma contribution.
Merci Franck. On écoute le dernier auditeur de cette série, c'est Serge qui est à Bounia. On revient à l'invité pour répondre aux préoccupations des auditeurs. Serge, bonjour.
Oui, bonjour, M. Thérault.
On vous écoute, Serge.
Oui, dans ce sujet, M. Thérault, je tiens d'abord à féliciter son excellence, le ministre de l'Enseignement supérieur, l'Université de Cherchachik, de l'effort qu'il est en train, n'est-ce pas, de fournir à ce secteur-là. Et donc, c'est un peu de redorer l'image de ce secteur, mais il faut voir le bureau aujourd'hui avec cette innovation de taille qui est bien évidemment les LMD, donc la licence, la maîtrise et les doctorats. C'est quelque chose qui, à mon avis, doit s'accompagner avec les moyens qui bien entendu quelque chose de très capital. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est bien de dire que nous allons encore donner cette innovation dans ce secteur de l'enseignement, mais si aujourd'hui on n'a pas mis suffisamment de moyens, et là, ma réaction va dans le même sens que mon professeur, la personne qui. La personne qui a été juste avant moi, donc.
C'est
Franck, bien sûr, qui a intervenu. Donc, il faut évidemment mettre des moyens pour qu'aujourd'hui cette politique soit vraiment efficace et pourquoi pas efficace. Je crois qu'aujourd'hui, tout ce qu'on peut assister avec cette politique qui nous tous nous sommes en train de critiquer, nous formons bien évidemment des tribunaux scientifiques qui sont aujourd'hui en train de donner un résultat vraiment inquiétant. Dans le secteur, mais dans la vie
professionnelle. Voilà. On a aussi un problème de la qualité des liaisons entre Kinshasa et Bounia, mais du moins, vous avez insisté comme France sur les moyens, les ressources financières qui peuvent permettre au ministère de l'enseignement supérieur universitaire de réaliser toutes ces réformes. Merci à vous. Vous avez besoin d'intervenir. Appelez-nous au 081-890-6315.
Émission spéciale parole aux auditeurs consacrée à la province du Nord Kivu.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Les auditeurs habitant la province du Nord Kivu, prenez rendez-vous avec toute l'équipe TA ce mercredi 22 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse ta@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Vous êtes à Walikale, Kirumba, je crois bien, vous êtes à Goma, dans les Rutshuru, partout, hein. Alors, en ordre de vous, prenez rendez-vous le mercredi prochain, l'émission spéciale consacrée aux institutions provinciales du Nord Kivu. Nous revenons à vous, monsieur le ministre. Vous avez suivi Étienne de Mbujimayi, Eric de Bukavu, Maître Adrien de Kananga, Franck d'Autriche, Serge. Il y en a qui ont encouragé, mais il y a aussi des préoccupations par rapport aux ressources financières, mais des questions directes aussi qui vous ont été posées par Étienne et par Franck. On vous écoute.
Merci beaucoup. Je voudrais remercier Eric, Étienne, Maître Adrien, Franck et Serge pour les pertinentes questions qu'ils ont posées. Et effectivement, dire avec eux que l'argent est le nerf de la guerre, mais je voudrais montrer les pistes qui sont les nôtres, qui sont celles qui sont utilisées dans le monde entier. Le fonctionnement de l'enseignement supérieur, nous l'avions dit dans l'instruction académique 012 qui réglementait l'année académique que nous sommes en train de terminer, a six sources de recettes. C'est d'abord la contribution de l'État, c'est la première source. Mais je voudrais attirer l'attention d'Éric. La deuxième contribution, telle qu'on le voit dans le monde entier, c'est la contribution des parents. La troisième source, c'est celle de la société civile. La quatrième source, c'est celle du partenariat entre le public et le privé, notamment avec les sociétés de la place. Et la cinquième source, c'est le financement des partenaires, des coopérations bi- et multilatérales, parce que dans notre pays, on regarde seulement l'État et puis les ambassades, on oublie tous les autres et ensemble. La sixième source, c'est l'autofinancement parce qu'il y a des établissements qui ont des petites unités qui peuvent valoriser s'il y a une bonne gouvernance. Guillaume avait insisté sur ça, s'il y a la bonne gouvernance. Vous êtes en train de voir, par exemple, à l'ISER Bukavu, il y a des choses qui se font. Je reviens de là à Bukavu. L'auditoire à Père de Four qui est en train de se faire, c'est avec une bonne gestion. Il y a des choses qui ont beaucoup changé, notamment en termes de nouvelles techniques de l'information de la communauté d'ISER Bukavu. Là, nous avons décidé qu'avec la bonne gouvernance et le peu de moyens qu'on a, on peut améliorer beaucoup de choses. Cette réponse, évidemment, va contribuer à pouvoir dire aux autres que nous sommes conscients de ça. Nous nous battons pour que le gouvernement puisse augmenter son budget, améliorer le social, j'en dirais un mot, mais que nous puissions aussi frapper à des portes qui sont dans notre, à notre disposition, mais souvent on l'ignore. Les diplômes, c'est un problème réel. Les choses commencent à changer. On a maintenu une pression sur la plupart des établissements. Je peux vous dire que pour l'année 2011, nous avons signé des diplômes qui pratiquement sont 50 fois plus élevés que ceux qu'on a signés dans les années antérieures. Donc nous sommes conscients qu'il faut que le diplôme soit signé, entériné, homologué à temps pour faciliter la tâche à nos jeunes diplômés. Et nous avons compris aussi un problème très sérieux sur l'emploi. On ne peut pas continuer à diplômer des jeunes gens sans savoir ce qu'ils deviennent. D'où l'accord que nous avons signé le 22 décembre entre l'enseignement supérieur, nous les formateurs et le patronat congolais pour le stage, pour qu'on commence à inculquer l'esprit d'une entreprise aux jeunes et que demain ceux qui auront été bien remarqués puissent avoir une facilité d'être embauchés. Mais c'est notre ami de l'Autriche qui l'a dit. Nous avons dit aux chefs d'établissement que les universités, notamment les instituts techniques, doivent être des incubateurs d'entreprises. Il faut que, comme nous l'ont montré, les jeunes gens, que ce soit de l'IEC Gombe ou de l'ISIPA, ce sont des jeunes informaticiens, ils n'ont pas besoin d'aller chercher de l'emploi, ils créeront eux-mêmes leur emploi. Et donc aujourd'hui, l'université doit être un lieu de création de futurs créateurs d'emplois et notre pays s'est engagé dans cette direction. Je voudrais, en m'adressant à Étienne, lui dire que je suis très content pour le souci qu'il a sur la qualité. Si il pouvait se renseigner dans la directive 012, l'achat du syllabus n'est pas obligatoire, ça c'est le premier élément. Deuxièmement, nous avons dit que les syllabus, justement, pour ne pas être une source d'enrichissement illicite des enseignants, les sections et les facultés avaient l'obligation de vérifier si le contenu est réellement un contenu qui respecte la science et son évolution. Et là, la délégation des étudiants a l'obligation de pouvoir suivre de près, parce que dans les instructions, nous avons dit que les étudiants sont partenaires. Donc, ils doivent participer à des décisions. Et donc, le LMD, justement, dans le LMD, les étudiants comptent les professeurs. Pour que les professeurs qui ne sont pas les meilleurs et qui ont beaucoup de choses qu'on peut leur approcher, que systématiquement, on leur retourne le cours. Donc, c'est aux étudiants aussi de pouvoir assumer le pouvoir que l'État leur donne, que les textes leur donnent. Donc, dans le LMD, c'est enseigner différemment, c'est étudier différemment, c'est aussi participer à la cotation des professeurs. Et toujours pour nous assurer de la bonne gestion, de la bonne gouvernance, il y a un organe, le collège des commissaires aux comptes, qui va commencer à, qui est prévu par la loi, mais qui n'avait jamais été mis en place depuis 1981, que nous venons de mettre en place pour nous assurer que l'argent qu'on est en train de percevoir ici est là, sans le signaler, que ces choses-là soient bien visualisées et sanctionnées. Adrien, non, je ne pense pas qu'on soit parti trop vite. Au contraire, nous avons commencé les audits et les enquêtes de viabilité depuis 2009. Nous sommes en 2011. Nous avons maintenant un recul, un diagnostic correct pour pouvoir entamer aujourd'hui ce processus d'arrimage aux standards internationaux.
Voilà.
Le budget, on en a parlé, je pense que ce soit Franck, que ce soit Serge, les moyens, nous sommes en train de nous battre d'abord en augmentant le budget de l'État. On a amélioré le salaire des corps enseignants, en commençant par les professeurs. Et ici, déjà au mois de juillet, tous les membres, y compris jusqu'au lycée, vont voir que leur situation va s'améliorer.
Voilà.
Et donc, les filières techniques et celles basées sur les ressources naturelles sont privilégiées. Et je peux vous assurer que nous sommes conscients qu'il faut mobiliser de l'argent. Voilà pourquoi on a organisé une journée spéciale avec le patronat et les bailleurs de fonds, pour que les dirigeants de nos établissements sachent qu'il n'y a pas que l'État qui doit regarder, qu'il y a des synergies qu'ils peuvent créer dans leur environnement et avec les partenaires de la coopération en dehors du gouvernement et des parents.
Voilà. Il y a aussi du côté Tangali, docteur Richard Etiquette Kinshasa. Un peu rapidement, parce qu'on entre à la dernière partie qui touche vraiment l'exposition. On a exploré les pistes de solutions pour la première partie. En ce qui concerne l'exposition, monsieur le ministre, un peu, peut-être dans deux minutes, vous aviez parlé l'année passée de passer à l'étape des brevets d'invention pour permettre à ce que les œuvres d'esprit qui proviennent de nos universités puissent être reconnues aussi sur le plan international. On a vu assez de choses parce qu'on a été sous place, on a vu beaucoup de choses, beaucoup d'inventions, beaucoup d'œuvres d'ailleurs. Mais comment rendre ces œuvres, si on peut dire, utiliser les termes universels ? Est-ce que où en est-on avec le projet des brevets d'invention ?
Merci beaucoup. Donc, nous sommes déjà en train de faire la liste de toutes les innovations extraordinaires que nous avons vues. Je vais les soumettre au Conseil des ministres pour que le ministère qui est en charge ce secteur, c'est le ministère de l'Industrie, qui puisse procéder à la protection de ce brevet d'inventeur. Et nous allons également, je viens d'avoir du temps de parler avec le ministre de l'Énergie, le ministre de la Santé, le ministre des ITPR, parce qu'on a vu des inventions extraordinaires, le ministre de l'Agriculture, pour que d'abord, on protège les inventions, et deux, qu'on étudie comment, soit au niveau du gouvernement, au niveau du patronat, comment on peut commencer à produire en grand nombre pour que non seulement on protège le brevet, mais qu'on commence à utiliser dans la vie courante ces inventions extraordinaires que nous avons vues dans tous ces domaines, et nous allons certainement y revenir parce que on a vu qu'il y a des choses très importantes, très pratiques et qui sortent de la créativité et de l'inventivité de nos jeunes.
Aujourd'hui, gardez la ligne, docteur Richard, nous sommes à vous. Mais il y a aussi ce message que nous allons lire bien avant que le ministre puisse répondre à la troisième vague d'auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Aujourd'hui, vous nous appelez de Kisangani, en province orientale, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à la radio passée et tous les auditeurs de la radio passée.
On vous écoute aujourd'hui.
Ok, merci beaucoup de pouvoir m'accorder la parole. Moi, je pense que le sujet de la radio, c'est un sujet vraiment très important. Parce qu'un coup, je voudrais bien intervenir pour donner un peu d'arguments, tout un peu d'arguments. Et l'idéal ici, je pense que quand on parle de l'éducation supérieure universitaire, comment vous comprendrez que nous sommes dans un niveau vraiment très élevé, où les gens espèrent quand même donc y avoir des personnes bien cultivées, des personnes qui ont d'abord un niveau un peu vraiment élevé par rapport à un autre, par exemple, à secondaire. Mais vous remarquerez, les journalistes et les auditeurs, que c'est justement vraiment il y a un problème dans ce monde intellectuel, puisque la formation comme telle vraiment n'y repose pas vraiment à des jeunes et des parents, à des jeunes vraiment de la société. Ça veut dire que la formation qui reçoit les étudiants aujourd'hui, vraiment, est très bas par rapport à ce
Au tout dit, s'il vous plaît, si on peut nous permettre d'évoluer, si nous disons que l'enseignement qui reçoit les étudiants, ça risque d'être tous les étudiants de la RDC, pourtant les universités se diffèrent, ou les institutions se diffèrent l'une à l'autre. Concrètement, là où vous êtes à Kisangani, vous avez quel problème? Par exemple, vous dites, non, ici chez nous, la médecine, ou soit les droits, ou soit tel domaine, on ne voit pas que ça marche comme ça. On peut avoir des solutions concrètes en fonction d'un problème précis dans les milieux où on vit, si on ne peut pas les généraliser.
Ok, merci beaucoup. Je pense que cette année, vraiment, vous semble quand même assez bien, sauf que, quelque part, les étudiants, quand même, sont un peu pénalisés, de sens que, vraiment, il y a beaucoup d'experts qui sont exagérés, en tout cas, au niveau de l'université. Il y a, par exemple, les grands auteurs, à chaque fois, c'est la biologie, c'est-à-dire que tout ça, vous comprenez qu'aujourd'hui, les parents, quand même, n'ont pas vraiment beaucoup de moyens. Il faudrait quand même qu'on puisse revoir les faits sur les plans académiques, que les enseignants puissent quand même régulariser, parce que à cette fin, les frais
Je crois même que le ministre, merci beaucoup, Outili, le ministre venait de répondre à cette question. Donc, vous avez posé le problème des frais à l'université de Kisangani, mais du moins, vous avez dit que les choses marchent quand même, sauf les étudiants qui souffrent pour le frais. Merci à vous. Nous revenons ici à Kinshasa. Docteur Richard, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Thierry. Bonjour, spécialement à son excellence, monsieur le ministre, et à tous les auditeurs de Radio. Je voudrais dire ceci, je suis très très content que monsieur le ministre ait ajouté à côté de ce qu'il avait dit avant, c'est-à-dire le diplômé, dès qu'il sort, doit être capable de trouver du travail, qu'il soit créatif et qu'il soit aussi créateur d'emplois. Ça m'a beaucoup réjoui. Et ça a ajouté encore des fleurs à l'UIGT, parce que c'est un homme qui fait un toilettage très important dans ce domaine. Ce qui modifie aussi mon intervention, parce que j'allais ajouter donc ma créativité et la création d'emplois. Mais Cela n'empêche pas qu'ils se fissent. Je voudrais aussi que nos diplômés soient capables d'écouter la communauté. Et puis, lui donner la réponse. Et enfin, au mieux, lui apporter des solutions. Ce que nous voyons, c'est quoi? C'est que nous sommes, je me mets là-dedans, pratiquement déconnectés de la communauté. On est trop attachés aux livres, attachés à la science, et attachés aux origines des sciences. C'est-à-dire, on regarde la France, la Belgique, etc. Au lieu de regarder le Congo et lui apporter des solutions. Alors, pour ce qui est du devenir du diplômé, je crois, le diplômé, après les études, doit continuer à rester concepteur, formateur, superviseur et pourquoi pas évaluateur de ses propres actes et des actes de son entreprise. Il a créé ou l'entreprise là où il est entré. Mais souvent, ce n'est pas ça. C'est pourquoi on a aujourd'hui des canards boiteux dans les entreprises publiques, etc. etc. Enfin, pour ce qui est de la recherche, que la recherche ne soit pas pour la recherche, que la recherche soit la recherche par objectif pour développer le Congo. C'est-à-dire des chercheurs qui soient des trouveurs, et non des chercheurs qui cherchent et qui ne trouvent pas. Il a maintenant 65 ans, on lui dit, bon, prépare-toi à la retraite, il va fermer son bureau à 75 ans, et puis après, la recherche n'a rien apporté. Donc c'était un chercheur pour la recherche. Et quelle recherche qui n'a pas donné de solution au Congo? Je donne un petit exemple. Je connais des étudiants qui ont fini, qui ont cherché et trouvé, qui ont travaillé sur, par exemple, la patate douce. Mais quand vous leur posez la question, qu'est-ce que vous avez fait de votre travail de fin de cycle? Sinon, c'est le professeur qui m'avait demandé. Mais qu'est-ce que le prof a fait avec ça? Rien, c'est dans les tiroirs. Et pourtant, fiche. Hein? Qui avait travaillé, par exemple, sur la patate douce, sur la canne à sucre, pouvaient devenir des grands producteurs de ces denrées et créer des emplois. Mais la vision du développement, la vision de création de l'emploi n'était pas coulée à ces jeunes gens.
Merci,
à la fin de leur cycle.
Voilà, merci voilà. Beaucoup, docteur.
Je voulais parler de moi, mais comme excuse, parce que je suis devenu agriculteur, de l'agriculteur, je suis devenu éleveur, de l'éleveur, je suis aussi aujourd'hui entrepreneur agricole de la filière transformation et conservation. Tout ça, c'est pour appuyer la médecine. Mais quand j'en discute avec mes collègues médecins, ils se moquent de moi. Voilà le diplômé congolais. Donc, coup de chapeau à son excellence, monsieur le ministre.
Merci.
C'est un bon soignage.
Merci beaucoup, docteur Richard. Vous êtes ici à Kinshasa, on rentre en Boujimaï avec Béli. Vous êtes en ligne. Bonjour, Béli.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, j'ai quelques préoccupations que je voudrais soumettre au ministre.
Allez-y.
Je pense que Boujimaï, en particulier les personnes en général, c'est des parents pauvres. Nous avons une université aussi ici, l'université de Boujimaï, qui n'a pas d'auditoire viable, qui n'a pas de bibliothèque, pas de laboratoire, pas de clinique vétérinaire. Nous avons entendu dernièrement qu'on voulait réhabiliter l'université. Mais au lieu de commencer par ceux qui n'ont rien, on réhabilite l'université de Kinshasa, qui a des sociétés viables, le Lubumbashi de Kisangani. Quand est-ce qu'on passera à celle de Boujimaï, par exemple, qui manque de beaucoup, qui a fait l'école primaire et transformant aujourd'hui à l'université? Il faut la connaissance.
Mmh.
Alors, la deuxième préoccupation, c'est que je me pose la question, moi, en tant que parent, pourquoi nous envoyons les enfants à l'université? Parce qu'après, nous les gardons encore dans nos maisons, nous continuons à les supporter. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a eu la première promotion d'ingénieur agronome à l'université de Boujimaï. On déclare partout à l'agriculture priorité de priorité. Mais les 9/10 de ces enfants-là que moi je connais personnellement sont encore dans le chômage. Alors qu'ils sont des techniciens, hein, qu'on devait mettre à l'école sur le terrain pour qu'ils puissent nous montrer de quoi ils sont capables.
Mm-hmm. Voilà, merci beaucoup.
Alors, on revient encore à l'oubliement des parents pauvres.
Mm-hmm.
Nous avons décidé qu'il n'existe pas ici. Nos enfants qui ont appris la construction au niveau secondaire, ils doivent aller à Kim pour aller étudier. C'est pour faire la coupe et couture. Pourquoi on ne doit pas penser à créer ces filières sur place pour éviter un peu aux parents trop de dépenses possibilité de s'en surcharger, ils ne sont pas payés, tout ça.
Merci beaucoup, Béli. Béli, on ne saura pas aller plus loin parce qu'il y a, on n'a pas assez de minutes. C'est 6 minutes qui nous séparent de la fin de l'émission et nous avons en ligne Dinga qui nous a dit d'extinguer. On a aussi deux messages et une question hein, posée directement au ministre. Permettez-lui vraiment, permettez-nous de trouver le temps de traiter tout cela dans un temps record. Dinga, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute rapidement parce qu'on va déjà vers la fin de l'émission.
Ok. Monsieur, en suivant aujourd'hui la radio, vous avez parlé comment améliorer le secteur d'enseignement supérieur universitaire dans notre pays. Mmh. Moi, je voudrais toucher surtout la sélection des corps scientifiques. Il y a des choses très louches qui se passent. Vous trouvez qu'il y a des mérites, mais une fois que vous n'êtes pas couvert, et vous ne pouvez pas accéder à ces postes-là. Je vous parle de mon cas précis.
Mmh.
Et aussi, il y a des recteurs qui ont comme ça, qui n'ont pas respecté leur mandat, par exemple. Le mandat est de 4 ans, mais il a commis des fautes graves et on l'a mis à côté. Bon, je vais demander au ministre, est-ce qu'il n'y a pas un tribunal pour suivre ces gens de professeurs?
Merci. Merci Dinga, il y a les conseils d'administration, il y a tout cela, le conseil de gestion, le comité de gestion, le conseil d'administration, et tout cela, le ministre pourra nous le dire. Nous allons aussi lire ce message de Baloumé Lipanda Sijat qui nous écrit depuis Nairobi au Kenya, il dit ceci, souvent nous apprenons qu'il y a hausse des frais académiques, dans la plupart des cas, les autorités se réunissent sans consulter les étudiants. Il faudrait également songer à l'amélioration des conditions de vie des étudiants, mais aussi la paye. Lui, il revient sur les accords de Moody. Et nous avons une question de Jean Gandou de Lubumbashi posée au ministre. Hein. Il y a un problème dans les Katanga, c'est que l'université de Lubumbashi ne reconnaît pas les étudiants qui viennent de l'université de Malembankulu et pourtant cette université est l'extension de l'université de Lubumbashi. Et quel est le sort de ces étudiants-là et pourtant cette université figure sur la liste des universités viables à travers le pays. Je crois bien, monsieur le ministre, c'est là où on a vidé presque l'ensemble de tous les problèmes que nous avions. Les auditeurs, nous revenons à vous pour commenter et répondre à ces préoccupations.
Je voudrais remercier aussi Richard, Eli, notre ami Ndinga de Kisangani et Baloumé à partir de Nairobi. Je voudrais rassurer aujourd'hui en disant que déjà la belle expédition scientifique sur le fleuve Congo a permis à l'université de Lubumbashi de Kisangani d'apporter au monde et à notre pays de nouvelles découvertes, tant dans le domaine des plantes, de poissons, de reptiles, de champignons. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que nous puissions avoir la bonne gouvernance. Les frais exagérés, je répète, dans l'instruction 010, que la coordination des étudiants doit lire, nous avons dit qu'on doit leur remettre, ils ne doivent pas accepter des frais qui sortent du néant. C'est la capacité finalement des étudiants de s'organiser dans la discipline en s'appuyant sur les directives ministérielles de refuser que on les transforme en tiroir à caisse où chacun peut se lever en disant j'ai mon syllabus, donné autant. Donc, aux étudiants aussi, finalement, de faire. Parce que la bonne gouvernance, c'est aussi ce partenariat. Je voudrais vous dire que, ici à la conférence des chefs d'État, il y avait la délégation des étudiants. Donc, les étudiants ne peuvent pas dire qu'on ne les a pas associés. On les a associés dans les ateliers qui ont parlé de la bonne gouvernance, sur le plan stratégique et sur l'entrée dans le LMD, aux étudiants de s'organiser et de pouvoir revendiquer selon les voies hiérarchiques pour que, en tant que partenaire, ils n'acceptent pas d'être finalement pris comme des vaches à lait qu'on peut traire. Richard, je suis très content. Nous veillons à ce que il n'y a pas seulement que dans la recherche fondamentale, la recherche opérationnelle, la recherche appliquée. Qu'est-ce qui nous a frappé pendant l'exposition? Les jeunes Congolais ont mis au point des machines pour produire l'électricité. Les jeunes Congolais ont utilisé le palmier, le safou, ils ont utilisé le veilla et d'autres plantes. Ils ont produit du carburant et on a vu pendant l'exposition des lampes qui puissent s'allumer. Ils ont produit des machines que l'on peut mettre sur la rivière, avec une démonstration sur la rivière Kalamu, ici à pour produire de l'électricité. On a vu des les éoliennes. On a vu comment la chikwang aujourd'hui, donc le manioc associé au poisson, à l'arachide, bien travaillé, peut servir d'un aliment complet. Et je viens de dire au ministre de la Santé, nous allons avoir une séance technique pour que tous ceux que les systèmes, les escomopiens en termes d'aliments, etc., que nous puissions les valoriser. Et donc, c'est pour vous dire que effectivement, nos universités doivent devenir des incubateurs d'entreprises et ce que les jeunes nous ont montré avec l'encadrement des professeurs nous amène dans la bonne direction. Etienne, le mouvement est la catégorie orientée par nos parents pauvres. Il vaut mieux encore dire un tiers vaut mieux que deux tiers. C'est vrai qu'on a commencé par les grandes et les plus anciennes, parce que c'est elles qui ont la capacité, qui ont la capacité de produire des thèses pour envoyer des enseignants de qualité. Vous êtes un musulman. Aujourd'hui, la DGD de l'Institut musulman, c'est la première femme congolaise qui a une thèse en sciences biologiques. Elle est de l'Université de Kinshasa, mais c'est elle qui dirige l'Institut musulman et qui vient de construire là où on n'avait pas construit depuis qu'on a créé cet ISP. L'Université officielle de musulman, ce sont les professeurs qui viennent de l'Université de Lubumbashi. Et aujourd'hui, le Premier ministre, le chef du gouvernement, est frappé, et tous les visiteurs, par les efforts maintenant de construction faits et qui nous montrent que déjà à l'année académique 2011-2012, l'UEM va fonctionner dans des établissements construits par les Congolais. Donc, nous consolidons l'existant pour qu'ils génèrent les thèses et donc forme des cadres de qualité qui viendront rehausser le niveau. On vient de créer le notre dame du Kassai, l'Omani, et aussi à Tumbe. C'est-à-dire que nous n'avons pas oublié et les filières de construction, ceux de couture, je peux vous dire qu'il y a au moins deux examens dans le Kassai oriental, et que autour du chef de l'État, l'option c'est qu'on doit avoir des instituts supérieurs pédagogiques et techniques pour former des ingénieurs, mais également des États dans les provinces. C'est un programme que nous allons suivre progressivement pour qu'effectivement dans chaque province il y ait les capacités d'avoir des ingénieurs, techniciens et des ingénieurs en bâtiment.
Vraiment, les temps nous le monsieur le ministre, il y avait la préoccupation de Malimba Nkulu et aussi une préoccupation qui tombe en dernière minute, je ne sais pas si vous aurez le temps de répondre autour des bourses qui étaient accordées aux finalistes de la science universitaire. Est-ce que dans ce second on peut avoir la réponse à cette préoccupation?
La bourse, c'est un engagement fort du chef de l'État, du chef et du premier ministre. Nous sommes en train de finaliser avec le ministre de Finances. Deuxièmement, on a amélioré quand même le salaire. On a fait plus que Moody. Et donc là aussi, que les gens se rassurent qu'il y a des choses qui sont en train de se faire. Et c'est ainsi que même pour les professeurs, il y a quelque chose de fondamental qui est en train de se faire. Et voilà pour les 11 provinces.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. On n'a pas eu vraiment la réponse pour la situation de Malimba Nkulu. On pourra peut-être avoir la réponse autrement. On s'espère avec vous. Les auditeurs pourront se retrouver le lundi. L'émission sera consacrée à quelques cas d'intolérance politique qu'on observe ça et là à travers le pays. Une question, qu'est-ce que vous proposez pour prévenir les cas d'intolérance politique pendant cette période électorale? Merci à toute l'équipe et bon week-end à tous. Au revoir.